Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci encore au Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration. Et on va maintenant passer une autre forme d'adoration, celle qui consiste à ressembler à Marie qui était au pied du Seigneur et qui finalement contemplait, buvait surtout les paroles, un bien de grâce qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus. Et le Seigneur veut nous parler encore en ce matin. Il y a jamais dans les rassemblements que le Seigneur nous accorde, eh bien, le Seigneur qui vient les mains dans les poches, excuse-moi l'expression, il a toujours une grâce, une bénédiction pour chacune de nos vies. Et j'aimerais justement ce matin rappeler que nous tous qui avons cru en Dieu, nous tous qui avons fait la paix avec Dieu, nous tous qui sommes passés par les eaux du baptême, nous sommes devenus les uns les autres des disciples de Jésus-Christ. Alors est-ce qu'il y a des disciples dans la salle de Jésus-Christ ? Évidemment. Et c'est d'ailleurs justement l'exaucement d'une prophétie, qui remonte quand même du temps d'Ésaïe, le prophète, donc c'est-à-dire 8 siècles avant la venue de Jésus, qu'on découvre déjà cette notion de discipula et de disciple. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 54, verset 13, c'est juste une introduction. Ésaïe chapitre 54 et le verset 13, pour découvrir ensemble ce qu'il est dit. Alors, je pense que dans quelques instants, ça va être projeté sur l'écran, voilà. Ésaïe chapitre 54, verset 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Vous voyez, dès l'Ancien Testament déjà, bien d'une manière messianique, le Seigneur bien lui-même est désigné pour celui qui allait choisir pour lui, pour son royaume des disciples. Et c'est ce qu'il a fait quand il a marché sur cette terre. Eh bien, il s'est choisi 12 disciples. J'ai des versets pour vous ce matin, hein. Ne soyez pas choqués, mais je pense que c'est par la parole de Dieu que notre cœur sera fortifié. Luc chapitre 6, verset 13. Alors, ceux qui ont des stylos, des papiers, prenez des notes, comme ça vous relirez tranquillement chez vous. Et donc, dès le début de son ministère, Jésus d'ailleurs a passé toute une nuit, et puis le lendemain matin, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Mais il ne s'est pas contenté uniquement de 12 disciples ou 12 apôtres. Il en a choisi 70 autres plus tard, dans Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus tard, le jour de la Pentecôte, après l'effusion du Saint-Esprit, Pierre, qui rempli justement du Saint-Esprit, va prêcher l'Évangile, et la Bible nous dit que des milliers de personnes se tournèrent à ce moment-là vers le Seigneur. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 2 et le verset 41, nous dit la chose suivante, Actes chapitre 2, verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta de combien ?» 3000 âmes. Plaise à Dieu qu'il y ait 3000 âmes ici. Hein. Bon, on aura un problème. Mais vous savez, il y a des bons problèmes dans la vie. Hein. Et ouais, plaise à Dieu qu'il y ait les 3000 Israéliens et Israéliennes qui sont potentiellement des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, après l'effusion du Saint-Esprit, le Seigneur a continué, bien sûr, à augmenter le nombre de ses disciples. Et on le voit un peu plus bas, dans quelques chapitres plus loin, Actes chapitre 6, verset 7, la Bible nous dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Encore aujourd'hui, le nombre des disciples n'a de cesse d'augmenter. De tout peuple, de toute nationalité, de toute race, de tout peuple, des hommes, des femmes se tournent vers le Seigneur, et en se tournant vers le Seigneur, ils deviennent potentiellement des disciples. Et si ce matin, vous vous reconnaissez comme un disciple du Seigneur Jésus, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Maintenant, il y a une question qui m'a interpellé et que je voudrais vous soumettre ce matin. Et la question, elle est très simple. Comment reconnaît-on un disciple de Jésus-Christ? Ah, c'est un débat ça. Comment reconnaître un disciple? Comment distinguer un véritable disciple de Jésus-Christ par rapport à un sympathisant ou un croyant, peut-être de nom, parce qu'il y en a. Tout le monde aujourd'hui se dit chrétien. Hein, mais comment différencier? Comment faire la part des choses? Eh bien, j'ai voulu répondre à cette question par une affirmation que le Seigneur Jésus a faite lui-même. à ses disciples. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 7 et du verset 16 à 20. Et là, nous commençons à entrer un petit peu dans ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Matthieu chapitre 7 du verset 16 jusqu'au verset 20. Voilà la réponse. Vous les reconnaîtrez à quoi ? À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et au verset 20, comme pour insister, Jésus rappelle la chose suivante, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comment donc reconnaître un véritable disciple de Jésus-Christ ? À ses fruits. Et il faut le comprendre, bien sûr, dans le sens figuré du terme, dans le sens propre du terme, un fruit, c'est quoi ? Un fruit, alors j'ai regardé pour vous dans le dictionnaire, un fruit, eh bien, c'est le produit comestible, j'ai envie de rajouter ou pas, de certains végétaux. Mais au sens figuré, le fruit peut avoir plusieurs significations. On va parler, par exemple, du fruit des entrailles, soit d'un animal ou bien d'un être humain. Juste pour parler donc des êtres qui ont été engendrés par d'autres êtres. Mais le fruit au sens figuré du terme, c'est aussi le produit, on va dire le résultat, la conséquence d'une action ou d'un travail. Et je veux rapidement faire le parallèle avec le disciple de Jésus. Eh bien, le disciple de Jésus, il se reconnaît justement par divers fruits qu'il va produire à travers sa vie chrétienne. Est-ce que vous me comprenez ce matin ? C'est important que ça soit compréhensible. Je veux rendre la chose la plus simple possible, pour que nous puissions arriver à nous distinguer et nous positionner par rapport à notre Seigneur qui revient bientôt. D'ailleurs, la Bible dit, ce jour-là, eh bien, mettra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, entre le juste et l'impie et le méchant. Je voudrais vous donner quelques exemples. Je pense que c'est par des illustrations qu'on arrive à bien comprendre bien aussi la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus, souvent, bien utilisait des paraboles, des images, des histoires, bien pour rendre compréhensible ce qu'il voulait faire passer comme enseignement. Le disciple de Jésus se reconnaît, premièrement, à travers le fruit qu'a produit la repentance au-dedans de lui. Là, j'aurais aimé entendre un amen. Parce qu'on se rend compte au jour d'aujourd'hui que dans nos églises viennent s'infiltrer, s'ajouter bien des personnes, des croyants. Je ne remets pas en cause le fait qu'ils croient en Dieu. Ils savent que ce monde n'est pas venu comme cela, par hasard. Mais ces mêmes croyants, quelquefois même de nom, se sont affranchis de passer par cette étape, par cette case qui est importante, qu'on appelle la repentance. Il y a des personnes qui n'ont pas réellement expérimenté la repentance. Et cela a pour conséquence, quelque part, qu'ils ne sont pas pleinement convertis. Ils ne sont pas pleinement nés de nouveau. Et c'est alors qu'ils essayent de vivre leur vie chrétienne par leur propre force, et non par la foi, non par la grâce. Et on le voit au travers du fruit qu'ils rendent, qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est d'ailleurs le reproche sévère que fit Jean-Baptiste à ses chefs religieux de l'époque qui venaient à lui pour se faire baptiser. Et Jean-Baptiste, les pointant du doigt, va leur dire dans Matthieu 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Parce que ces chefs religieux venaient au baptême de repentance qu'enseignait Jean-Baptiste. Mais orgueilleux et fiers qu'ils étaient, ils ne se sentaient pas de pouvoir passer par une véritable repentance. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste, avec courage, leur a dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». On ne peut pas se dire chrétien au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se dire enfant de Dieu, on peut encore moins se dire disciple de Jésus-Christ si nous n'avons pas expérimenté une réelle repentance avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit, acte 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » C'est une nécessité, c'est incontournable. Il n'y a personne qui se retrouvera dans le ciel sans avoir, sur la terre, expérimenté la repentance. Alors, il faut quelque peu s'arrêter quelques instants sur le terme de la repentance. C'est quoi la repentance ? Comment elle se manifeste ? La vraie repentance est un changement total d'attitude de cœur à l'égard de Dieu. Une authentique repentance s'accompagne toujours de faits. Et le premier fait, c'est juste de constater, oui, c'est vrai, je ne suis pas parfait. Oui, c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé de mentir. C'est vrai, eh bien que je ne suis pas juste. Souvent, on a le doigt facile pour pointer du doigt les autres. Mais on dit souvent, quand tu pointes le doigt vers quelqu'un, il y en a trois qui sont pointés vers toi. Regardez, essayez. Ton corps, ton âme, ton esprit t'accuse. Ta conscience aussi. Qui est juste? Personne. Et de prendre conscience, oui, eh bien qu'on est mauvais. Oui, eh bien qu'il y a quand même une part de mal, aussi minime soit-elle, au-dedans de nous. J'ai besoin de me repentir. Et cette repentance, après, eh bien, me donne à lever les yeux, me tourner vers ce Dieu miséricordieux et finalement implorer sa grâce, implorer son pardon, eh bien, qu'il nous accordera immanquablement. Et de plus, si c'est nécessaire, une vraie repentance va susciter en nous un profond désir. Alors j'ai mis des mots, je les ai soulignés là sur mes notes. Un profond désir de réparation, de réconciliation, de restitution. Et on a l'exemple flagrant de Zachée, petit homme là, chef des percepteurs d'impôts de l'époque, connu et reconnu pour être celui qui mettait une partie de l'argent qu'il collectait, qu'il récupérait auprès de ses compatriotes juifs, il les mettait dans la poche, c'était un voleur. Jusqu'au jour où Jésus eh bien, lui propose de venir dans sa demeure. Et là, au contact de Jésus, cet homme a été littéralement transformé, changé. C'est pas dit dans le texte, dans l'évangile selon Saint-Luc, mais nous sommes convaincus qu'à ce moment-là, eh bien, cet homme aussi a vécu en son temps une véritable repentance. La preuve, il s'est levé certainement à la fin du repas et à dire à tous ceux qui étaient là présents, et à commencer par le Seigneur Jésus, et à déclarer eh bien, qu'il comptait rendre au quadruple tous ceux tout l'argent qu'il avait extorqué. La repentance engendra en lui un fruit d'intégrité. On ne peut pas me dire, voilà, je me suis repenti, et puis après je suis exactement avant dans une sorte de combine de choses mauvaises, ce n'est pas possible. Quand on s'est réellement repenti, eh bien, le Seigneur nous donne eh bien, à vivre des transformations, des faits concrets. Et de plus, pour revenir à l'exemple de Zachée, Zachée décida de donner aux pauvres la moitié de ses biens. Finalement, la repentance engendre aussi en lui un fruit de bonté, un fruit de générosité. Il y a des changements qui se produisent. La vraie repentance est toujours accompagnée de changements concrets que ceux qui nous entourent reconnaissent au-dedans de nous. Ils nous observent, les gens nous observent. Est-ce que vous savez que les gens nous observent ? Et quand on a vécu une véritable repentance, les gens que nous côtoyons au quotidien ont commencé à nous regarder, froncer un peu les sourcils et dire « Mais t'es bizarre, t'es plus comme avant. Même ton langage est différent. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as bu ? Qu'est-ce que tu as mangé ?» Et c'est là où on esquisse un merveilleux sourire et on explique aux gens qu'on a rencontré Jésus. Quand vous rencontrez Jésus, vous êtes transformé. Le miracle de la repentance, qui est produit d'ailleurs par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de véritable repentance qui n'est pas accompagnée par l'action du Saint-Esprit, qui nous convainc de péché, mais aussi qui nous aide à désirer changer, à désirer être transformé. On a entendu les prophéties ce matin. Et Dieu s'adresse à son peuple. Et il invite peut-être certaines personnes à pouvoir mettre de l'ordre dans sa vie, à revenir à la croix. Et revenir à la croix, c'est comprendre aussi eh bien, que le Sauveur, Jésus-Christ, a accepté de laisser son sang couler afin qu'en retour, nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Que Dieu nous aide à expérimenter la repentance toutes les fois que nous en avons besoin. Peut-être que quelqu'un a besoin de vivre tout à nouveau le fruit de la repentance devant Dieu. Eh bien, ce matin, peut-être même dans le secret de ton cœur, pouvoir dire à ton Père Céleste, « Père, j'ai péché contre toi, mais ce matin, je reviens vers toi et je te demande humblement pardon. Je me suis égaré un tant soit peu, j'ai été ça et là, j'ai erré, mais je reviens pour retrouver tes bras d'amour, je reviens dans la maison paternelle. Il faut que tu reviennes, mon frère, ma sœur. » Vous savez, on peut être physiquement là et spirituellement très loin du Seigneur. Très loin de la communion fraternelle. On vient pour pointer, on vient pour ne pas que les gens eh bien, commencent à nous questionner, mais il n'y a que Dieu qui sait où nous en sommes avec le Seigneur. Si nous revenons de tout notre cœur, si nous confessons nos péchés à Dieu, vous le connaissez ce passage, 1 Jean chapitre 1, verset 9, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le disciple donc de Jésus-Christ se reconnaît premièrement par le fruit qu'a produit la repentance et que le fruit que continue à produire la repentance au-dedans de lui. Mais il y a une autre piste que je voudrais vous donner encore ce matin. Le disciple de Jésus-Christ se reconnaît aussi à travers les fruits qu'on produit la présence de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand on expérimente le miracle de la nouvelle naissance, on est littéralement transformé. Ce n'est pas pour rien que l'Épître aux Corinthiens nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et le miracle de la nouvelle naissance nous permet de pouvoir devenir véritablement un habitacle, une maison, un sanctuaire. J'ai envie de dire, puisqu'on continue l'étude sur le tabernacle le mardi, un véritable tabernacle pour la personne du Saint-Esprit. Dieu littéralement vient habiter nos vies et nos corps. Et l'Esprit de Dieu vient demeurer en nous et il agit en nous à travers la manifestation de ses fruits vertueux que l'on retrouve dans Galates, chapitre 5, verset 22. On peut le lire ensemble. Allez, on va le lire ensemble. Mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. La tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Quand on parle de la bénignité, c'est la bienveillance. On est bienveillant à l'égard des uns et des autres. Toutes ces choses que nous venons d'énumérer sont potentiellement en nous. Parce que l'Esprit de Dieu, il est venu non pas dépouiller de son caractère, de sa personne, il est venu avec toute la personne divine. Et toutes ces choses sont à notre disposition. Il s'agit pour nous de pouvoir les libérer en temps et en heure. Je vais vous donner juste un exemple. Concernant toujours le vrai disciple de Jésus. Le vrai disciple de Jésus, je vais vous donner des choses évidentes, simples. Le vrai disciple de Jésus-Christ, il aime ses frères et ses sœurs. Amen ou pas amen? Pour moi, c'est évident. On a lu, le fruit de l'esprit, c'est avant tout l'amour. La joie, la paix, etc. Mais c'est l'amour. Le vrai disciple, il se reconnaît au travers de ce que Jésus a dit, Jean chapitre 13, versets 34 et 35, et il me semble, sur ma gauche, tout à l'heure, quelqu'un a commencé à énumérer ce verset qui est une réalité. Jésus qui parle, lui dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est pour ça qu'il est nouveau, parce que Jésus met la barre plus haute. Il ne s'agit pas d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais mieux encore, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Voici l'un des fruits qui atteste que nous sommes disciples de Jésus-Christ, lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Est-ce que vous aimez votre frère ou votre sœur qui est à votre droite? Regardez-le, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur. Ah, je vous regarde, je vous vois là. Un disciple de Jésus, écoutez-moi bien, un disciple de Jésus qui est dépourvu de toute forme d'amour pour ses frères et pour ses sœurs, je vous le dis, c'est juste impossible. Je le dis, ça n'existe pas. C'est une réalité. Ça n'existe pas. Par contre, une personne, un croyant de nom, un croyant qui n'a pas été totalement régénéré, il peut se permettre. Il peut tolérer le fait de ne pas aimer l'un et l'autre, ou même faire des tris. Mais il n'est pas question pour nous de faire des exceptions de personnes. On doit aimer tous les frères et les sœurs. Amen ou pas amen? C'est une réalité. D'autant plus que la Bible nous prévient, c'est l'apôtre Jean, c'est merveilleux. En plus, c'est l'apôtre Jean qui était appelé au départ fils du tonnerre avec son frère. C'était peut-être quelqu'un d'impulsif, mais lui a été sanctifié dans son caractère, dans sa personnalité. Et c'est ce même personnage qui, au contact de Jésus, puisque c'était, comme on l'appelait, le disciple que Jésus aimait, a été littéralement transformé aux côtés de Jésus. Et c'est lui qui nous apporte les épîtres de l'amour. Et il dit, par exemple, dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, nous savons, il a des certitudes, que nous sommes passés de la mort à la vie. De quelle manière? Comment? Parce que nous aimons les frères. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ah, je veux aimer tout ce qui bouge. Je veux aimer mes frères et mes sœurs. Pas question de me laisser piéger par l'ennemi pour m'empêcher d'aimer mon frère, aussi eh bien, exécrable soit-il, aussi difficile soit-il. Seigneur, si je ne peux pas arriver, toi tu vas m'aider et me donner la force de pouvoir aimer eh bien, mon frère et ma sœur. Parce qu'il n'est pas question pour moi de demeurer dans la mort. Jésus, c'est la vie. Et aimer, hein, c'est vivre réellement. Et puis une autre remarque aussi qu'on pourrait faire, c'est ben, les fruits de l'esprit eh bien, se manifestent en nous jusqu'à notre dernier souffle. Il y a peut-être des personnes âgées ici qui pourraient dire, bon, mais maintenant, place aux jeunes. Hein. Nous, on a fait notre temps, alors on dépose le manteau, etc. Non, jusqu'au bout, nous sommes appelés à porter du fruit. Et j'ai l'impression que même plus on avance dans le temps, avec le Seigneur, plus le fruit se bonifie. Il est plus succulent. Parce qu'entre-temps, ben, la sagesse des cheveux blancs va nous permettre d'avoir un tact, comme des pommes d'or sous des ciselures d'argent, ainsi une parole dite à propos. Et on sera là. On a, excusez-moi l'expression, roulé notre bosse. Et dans les moments difficiles, eh bien, on a su apprendre à faire confiance au Seigneur. Et on est rempli, on est verdoyant. Regardez ce qu'il est dit dans Psaume 92, verset 15. Il, c'est qui il? Ce sont les justes. Les justes portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Est-ce qu'il y a des personnes âgées ici dans l'auditoire? Êtes-vous verdoyant? C'est important. Il y en a, ils ont bien commencé et puis ils finissent mal. Ils se sont étiolés, ils se sont fatigués, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Le disciple donc de Jésus-Christ se reconnaît par le fruit qu'a produit la repentance au-dedans de lui. On vient de voir, le disciple de Jésus-Christ, il se reconnaît par rapport au fruit, eh bien que produit la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie, donc les fruits de l'Esprit. Peut-être un troisième point que je voudrais placer devant vos yeux. Les disciples de Jésus-Christ se reconnaissent aussi à travers le fruit de notre service pour Dieu, à savoir eh bien, lorsqu'on sert Dieu par rapport au salut des âmes. Je m'explique. Les disciples de Jésus ont pour mission suprême de pouvoir être les porte-parole du Seigneur Jésus. Nous avons été sauvés pour servir. Et de quelle manière nous servons le Seigneur dans notre génération ? Eh bien, en proclamant, en partageant le merveilleux message de l'Évangile autour de nous. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est Jean chapitre 15 et le verset 16. Je le place devant vos yeux parce que vous avez au travers de ce passage, j'ai envie de dire, le cheminement spirituel, le carnet de vol de tout disciple de Jésus-Christ. Jésus qui parle à nouveau et qui dit à ses disciples, premièrement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Tout le programme est là, frères et sœurs. Tout le programme est là. Ce verset, il est extraordinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le carnet de vol du disciple de Jésus-Christ. Premièrement, il y a un verbe qui m'interpelle et qui vous interpelle certainement. Jésus qui dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Jésus qui choisit, frères et sœurs. Il y a une notion d'élection qui nous échappe. Et on pourrait spéculer sur la question, c'est pas à nous de le faire. Dieu dans sa souveraineté, littéralement, c'est quand il dit je vous ai choisi, c'est je vous ai choisi parmi tant d'autres. Et on constate, tous ne sont pas sauvés. Même dans une même famille, tous ne sont pas sauvés. Pourquoi nous et pourquoi pas l'autre? Ça, il n'y a que Dieu qui sait. Il faut comprendre la souveraineté de Dieu. On approche des fêtes. On parle d'une fameuse Marie, eh bien, qui a trouvé grâce auprès du Seigneur et qui va être utilisée pour enfanter, vous rendez compte, le Seigneur, le Fils de Dieu. Mais croyez-moi, et ne nous flattons pas, il n'y avait pas que Marie qui était vierge à l'époque. Il y avait certainement d'autres jeunes filles vierges aussi passionnées que Marie, aussi pieuses que Marie. Pourtant, et cette notion d'élection, Jésus a choisi Marie parmi tant d'autres. Il a fait pareil avec nous. Ce matin, on n'est pas là par hasard. C'est parce qu'un jour, Dieu nous a choisis. Et on aura toute l'éternité pour remercier Dieu par rapport à cette élection. Mais il nous a choisis, et mieux encore, il nous a aussi établis. Autrement dit, il nous affecte à un poste. Il nous affecte à une fonction. Si vous pensez que vous êtes une pièce rapportée, vous êtes inutilisé ou inutilisable, eh bien dans le royaume de Dieu, vous faites fausse route. Hein. Quand Dieu nous a appelés, il avait aussi un but, il avait un dessein. Nous avons été créés, recréés par le Seigneur Jésus pour que nous puissions entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. On a une fonction, on a au moins un don, chacun d'entre nous. Et Dieu nous a assigné une fonction. Il nous a même revêtus, qualifiés, eh bien, pour que nous puissions répondre à l'ordre divin. Parce qu'après nous avoir établis, il nous invite à pouvoir aller. Il le dit, afin que vous alliez. Il y a ce passage que vous connaissez bien, Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Jésus, avant de remonter au ciel vers son Père, il va dire cette dernière recommandation à ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer quoi ? Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez ! Dites à votre voisin, allez. Vas-y mon frère, vas-y ma sœur. Vas-y mon frère. Et je suis obligé de m'arrêter parce que c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Je vais le dire parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne veut pas se déranger. On ne veut pas se laisser déranger par le Seigneur. Aujourd'hui, eh bien, on est comme enraciné, quelquefois ankylosé dans notre chair spirituelle. Seigneur, tu m'as sauvé, point barre, et ça s'arrête là. Mais le Seigneur nous invite à bien pouvoir entrer dans une dynamique, dans un mouvement. Il te dit, allez, pour aller, il y a une action à produire. Et cette action eh bien, que vous allez produire, que nous allons produire, eh bien, va par la suite eh bien, engendrer du fruit. Certains sont entrés dans une vie chrétienne religieuse et routinière, où tout est presque sclérosé et inerte. On a presque la même place, les mêmes routines, on s'assoit, presque la même prière. Et on ne se rend pas compte eh bien, qu'on tombe dans une espèce de religiosité, mais dans le sens péjoratif du terme. Parce que le mot religion, c'est pas mauvais. Religion veut dire relation avec Dieu. Mais on veut une religion dynamique. Il ne faut pas être statique. Celui qui est statique, c'est le mort. Mais si la vie est au-dedans de nous, eh bien, il nous faudra bouger. Il faut qu'on soit en mouvement. Et quand on obéit à cet ordre, allez, eh bien, nous le découvrons, on l'a lu, on revient sur Jean chapitre 15, verset 16. Jésus dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Si vous voulez porter du fruit, il vous faut obéir à Dieu. Il vous faut vous mettre en marche. Il faut que vous entriez dans ce mouvement. Le peuple de Dieu est en marche. L'Éternel des armées est devant. Et nous sommes derrière et nous avançons. Pas question de rester sur place. Notre destinée, c'est le pays promis. C'est le Canaan spirituel. Pas question pour le peuple de Dieu de rester dans le désert, bien qu'il ait tourné 40 ans. Mais la destination était à bien de passer de l'autre côté du Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et spirituellement, donc c'est pareil pour nous. Nous sommes ici-bas, voyageurs et pèlerins. Ça veut dire ce que ça veut dire. Spirituellement parlant, il faut que je sois en marche. Et tout en marchant avec le Seigneur, eh bien, du fruit va se manifester, va être produit au-dedans de nous. Du fruit qui aura une portée même éternelle. Vous savez, quand on parle du Seigneur, et quand Dieu nous utilise finalement pour amener une âme eh bien, à la connaissance de Jésus-Christ, mais c'est extraordinaire. Le fruit va perdurer jusque dans l'éternité, parce que ce même ami peut-être, ou membre de votre famille, que vous allez retrouver dans le ciel, sera éternellement reconnaissant à votre égard. Bien sûr, vous lui direz, ben, mais c'est pas moi, c'est juste la grâce de Dieu. Mais quand même, vous avez été disponible, vous avez été utilisé parce que vous avez entendu cet ordre, allez, et vous avez obéi. C'est comme cela qu'on va produire du fruit. Et même mieux, Jésus le dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Aujourd'hui, on demande la puissance, on demande la manifestation des dons spirituels, la manifestation de guérison. Mais Dieu veut nous accorder tout ça. Hein. Vous savez, le Seigneur n'est pas avare de toutes ces choses. Mais quand on va se mettre à aller, quand on va se mettre vraiment à servir Dieu pleinement, eh bien non seulement nous allons produire du fruit, mais mieux encore, Dieu va répondre à nos prières. Tu veux mon fils des paroles de connaissance ? Je vais t'en accorder. Tu veux mon fils des paroles de sagesse ? Je vais t'en accorder. Tu vas vivre le miracle. Mais pour cela, il faut que tu te lèves dans l'appel que Dieu a placé sur ta vie, dans ce que Dieu place sur ton cœur. Moi, je vois des personnes, hein, ils font volte-face en arrière. Et ils n'osent pas regarder en face leur vie chrétienne. Parce que finalement, elle a été monotone. Parce que finalement, elle n'a pas produit le fruit eh bien, que Dieu voulait. Et c'est pour ça qu'il y a comme un arrière-goût de tristesse qui est là. On aurait pu faire mieux. On aurait dû être plus passionné. Vous savez, la Bible nous dit que quand on comparaîtra devant le Seigneur, c'est lui-même qui essuiera nos larmes. Et comprenez que ces larmes, c'est entre autres ce regret de pouvoir dire, mais Seigneur, si je savais, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux. Mais il essuiera toutes nos larmes. C'est un Dieu miséricordieux et compatissant. Je veux terminer, je ne veux pas être trop long ce matin. On vient de voir le fruit de notre service pour Dieu concernant le salut des âmes. Là aussi, c'est un fruit que manifeste le disciple de Jésus-Christ. Je veux terminer en rappelant que le disciple de Jésus-Christ se reconnaît à travers le fruit que produit la sainteté. Vous savez que c'est le thème de notre année, de pouvoir nous sanctifier de plus en plus. D'ailleurs, c'est cette prière que Jésus nous a invités à pouvoir bien manifester, exprimer devant Dieu notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et le véritable disciple, il a une faim, il a une soif de pouvoir, jour après jour, produire le fruit de la sainteté. Regardez ce qu'il est dit, Romains chapitre 6, versets 20 à 22. Romains chapitre 6, versets 20 à 22. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit quoi ? La sainteté et pour fin, la vie éternelle. Quand je vous dis que le meilleur est encore devant nous, croyez-moi, c'est une réalité. Mais en attendant, nous avons pour fruit la sainteté. Je rappelais dernièrement un mardi soir, que le souverain sacrificateur, qui rentrait une seule fois par an dans le lieu très saint, devait aussi se couronner avec cette tiare, petit chapeau là qui était là, donc sur sa tête. Et sur cette tiare se trouvait une lame d'or sur laquelle était écrit « Sainteté à l'éternel ». Frères et sœurs, cette tiare, nous sommes aussi appelés à pouvoir la porter sur nos vies. Parce que nous sommes également des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs et de rois aux yeux du Seigneur. Il faut désirer le fruit de l'Esprit. Il faut désirer, c'est vrai, le fruit de notre service pour Dieu, mais il faut aussi désirer le fruit de sainteté. Est-ce que nous aimons ce qui est saint, ce qui est pur ? On veut se dépouiller de tout ce qui est souillant. Personnellement, je vous le dis, moi j'aime la propreté. J'aime quand les choses sont propres. Ne nous flattons pas, frères et sœurs, là-haut, le ciel est très propre. Parce qu'il aime ce qui est, ce qui n'est pas souillé, mais au contraire ce qui est pur. Parce que ça correspond à sa noblesse, ça correspond à sa royauté. Et ça doit être aussi notre aspiration. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 22, versets 10 à 14. On en a bientôt terminé. Apocalypse chapitre 22, versets 10 à 14. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est étonnant, hein, quand on lit ce passage, on aurait pu peut-être lire que celui qui est injuste cherche à ne plus l'être. Mais non, les dés sont déjà lancés. Mais écoute, que celui qui est injuste continue dans son injustice. Que celui qui est souillé, s'il l'a choisi, se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore et encore. Et encore, frères et sœurs, si nous voulons voir le Seigneur un jour, il nous faut, et encore, marcher sur le chemin de la sanctification. Jésus a dit au verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » Et d'entrer par les portes dans la ville. L'arbre de la vie qui se trouvait dans le jardin d'Éden, il a été, déterré, et il a été planté là dans le ciel. Et il est placé là, avec tous ses fruits, en réserve à ceux et celles qui auront persévéré sous le chemin de la sanctification. Alors mon frère, ma sœur, te reconnais-tu comme un vrai disciple de Jésus ? Au vu de ce qu'on a partagé ce matin, Te retrouves-tu dans ce que nous avons partagé ? Le Seigneur Jésus peut-il te reconnaître à travers le fruit de la repentance, à travers les fruits de l'Esprit de Dieu, à travers le fruit pérenne qu'engendre notre mission d'évangélisation, ou encore à travers le fruit de sainteté qui est indispensable pour voir Dieu. Mon frère, ma sœur, mon ami, quel genre de fruit engendres-tu à travers ta vie? C'est peut-être la question qu'il nous faudrait personnellement répondre devant Dieu. La question est cruciale, car c'est ce fruit qui te fera reconnaître au jour du jugement dernier. Alors soyons des disciples qui s'appliquent à ressembler à leur maître. La Bible dit « Tout disciple accompli sera comme son maître ». Est-ce qu'on peut baisser les yeux? Alléluia, Jésus est là. Et tu as besoin de retrouver des fruits dignes de la repentance. Tu es là et ce n'est pas un hasard. Tu as entendu les dons spirituels qui ont été énoncés, t'invitant à sortir de toute forme de souillure pour te rappeler de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Son sang a le pouvoir de purifier nos cœurs de tout péché, d'ôter le péché, de l'effacer. Et ce soir, peut-être, tant que disciple de Jésus-Christ, tu as peut-être besoin de revenir à Jésus. Parce que tu le reconnais bien, tu t'es égaré un temps soit peu. Il y a eu ce temps de relâchement. Et même, tu as manqué le but, tu as péché. Mais Dieu ne t'accuse pas ce matin. Avec un grand amour, il t'accueille. Et de ses bras d'amour, il veut t'accorder le pardon. Et je voudrais permettre à un frère, une sœur, et peut-être même un ami qui viendrait pour là où les premières fois, qui a besoin d'expérimenter la repentance, de revivre cette expérience de la repentance, de pouvoir trouver grâce aux yeux de Dieu ce matin. Et je voudrais vous inviter à vous lever, tout simplement, montrant au Seigneur, « Seigneur, je reviens vers toi. Je veux vivre cette repentance. Je me suis un temps soit peu écarté. Mais à cause de ce que tu as dit au travers de ces dons spirituels, à cause de ta parole ce matin, je veux produire des fruits dignes de la repentance. Il y a des gens qui vont passer leur vie à regarder les uns et les autres. Mais c'est une introspection personnelle que tu dois faire ce matin. C'est rentrer en toi-même et tel le fils prodigue. Parce que le fils prodigue, au final, appartenait à la maison. Dieu ne l'avait, le père ne l'avait pas quitté de cœur. Il l'attendait chaque jour. Et il a fallu que ce fils prodigue puisse rentrer en lui-même et reconnaître son péché et désirer vivre cette repentance accompagnée de faits concrets. Il s'est levé et il est retourné vers son Père. Et c'est ce que tu expérimentes ce matin. Ce que Dieu voudrait que tu expérimentes ce matin. Tu as besoin de te repentir. Les premières paroles de Jésus étaient « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il n'y a aucun disciple, il n'y a aucun enfant de Dieu, aucune créature qui pourra pénétrer le ciel de gloire sans avoir expérimenté la repentance. Et si tu te sens concerné par cela ce matin, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Tant pis pour le regard des autres, tant pis pour ce que les autres peuvent dire. Ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu pense de toi. Alors il faut que tu te lèves. Il y a une personne qui a besoin de demander la grâce de Dieu pour qu'il puisse enfin aimer ses frères et ses sœurs. C'est pour ça que j'ai mis ça ce matin. Si tu prétends être ce disciple de Jésus-Christ, tu as besoin d'apprendre à aimer tes frères et tes sœurs. Et je vais même généraliser, tu as besoin d'apprendre à aimer ton prochain, quel qu'il soit. Puisque Dieu nous demande même d'aimer notre ennemi. Et si c'est ton cas, lève-toi à ta place. Et Dieu va t'aider à pouvoir aimer. Les gens attendent quelque chose, une sensation, un sentiment pour pouvoir aimer. Mais aimer, c'est un ordre. C'est un commandement. Et Jésus l'a rappelé, on l'a lu tout à l'heure. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et Dieu va t'aider à pouvoir trouver le chemin du pardon, le chemin de la restitution, le chemin, alléluia, de la restauration, de la réconciliation. Et tu vas te dégager, mon frère, ma soeur, de ce piège qui, des années, t'a donné à perdre du temps. Il y a des personnes qui ont besoin de se lever pour obéir à l'œuvre, à l'ordre de Dieu. Il te dit, vas-y maintenant, c'est le moment. Il te dit, va. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Plaise à Dieu même que des hommes et des femmes se lèvent, alléluia, pour entrer pleinement dans le ministère. Pour pouvoir se lever, tels des ouvriers. Le Seigneur, il dit, la moisson, elle est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et si tu as besoin de te lever aussi, Alléluia, pour répondre à cet appel, lève-toi à ta place et arrête de calculer. Tu calcules trop. Tu calcules trop. Quand le Seigneur il appelle, il pourvoit. Quand il te donne une vision, il donne aussi la provision. Et il va te conduire, n'aie crainte. Mais tu as besoin de te lever et commencer à servir Dieu et à produire du fruit digne. Alléluia. Alléluia. Des fruits qui vont glorifier le Seigneur. Seigneur, tu vois ces personnes qui sont là debout et qui ont voulu ce matin encore répondre à ta parole. Tu ne parles jamais en vain. Seigneur Père, avec mes faibles mots, Seigneur, j'ai transmis ce que tu m'as demandé de transmettre à ton peuple ce matin. Parce que tu ne veux pas que nous soyons laissés pour compte lorsque tu reviendras. Seigneur Père, mon Dieu, que nous soyons au contraire fin prêts quand tu viendras sur les nuées, quand tu prendras ton Église, quand toi-même tu feras la différence entre Seigneur, celui qui t'appartient et celui qui ne t'appartient pas. Et tu vois ceux et celles qui ont besoin de revenir vers toi, qui ont besoin de se repentir. Ce matin, fais grâce. Je te prie de passer dans les rangs et de purifier, de laver, de sanctifier le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est puissant, alléluia, efficace pour même purifier nos consciences. Seigneur, tu vois la culpabilité. Tu vois, Seigneur Père, mon Dieu, les liens. Tu vois les chaînes qui retiennent, Seigneur Père, plusieurs de tes enfants. Libère-les ce matin au nom de Jésus. Et que, mon Dieu, ils puissent se dégager tel un oiseau qui s'échappe, alléluia, de sa cage. Ainsi la malédiction sans cause. Alléluia. Seigneur, je t'en supplie. Oh Père, mon Dieu, aide encore plusieurs à pouvoir, Seigneur, s'engager avec toi. Enlève toute forme de crainte, toute forme de timidité. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, ces chrétiens qui, Seigneur, se sont assoupis. Seigneur, Père, continuent à se tromper eux-mêmes par de faux raisonnements. Je te prie de les réveiller. Je te prie de faire grâce. Je te prie de leur donner à être en mouvement. Seigneur, à pouvoir sortir de toute forme, Seigneur, Père, mon Dieu, d'ankylosité, de toute forme de paralysie, de sclérosité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui nous libères de toute forme d'handicap spirituel. Et que nous puissions non seulement marcher, mieux encore courir dans la carrière qui nous est ouverte. Bénis ton peuple encore en ce matin au nom de Jésus. Et réponds aux besoins de tous ceux et celles qui se sont levés, même physiquement ou même de cœur, Seigneur mon Dieu. Tu connais les cœurs, tu connais tes enfants ce matin. Et nous voudrions tous être potentiellement ses disciples. Alléluia devant toi au nom de Jésus. Amen.